La santé, c'est l'affaire de tous.
C'est votre rendez-vous santé sur Phare FM Montauban. Merci d'être avec nous, toujours de bonne humeur et avec son sourire légendaire, le docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment vas-tu aujourd'hui ?
Très bien, alors on va discuter un sujet très 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 intéressant aujourd'hui qui est plein d'actualités et plein de choses intéressantes à parler.
Alors justement, on va commencer par ton invité du jour, le professeur Pierre-François Périgaud. Bonjour professeur.
Bonjour.
Nous allons parler, comme tu le dis, d'enjeux d'actualité, les enjeux éthiques et la réflexion déontologique. Messieurs, l'antenne est à vous.
Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup professeur Périgaud de votre temps. Je sais que vous êtes quelqu'un de très pris. Avant d'attaquer le sujet, parce qu'on a beaucoup de choses à parler, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, je suis chef de service d'anesthésie réanimation au CHU de Montpellier. Je suis aussi chef du pôle neurosciences tête et cou, mais aujourd'hui je suis plutôt là pour parler des questions éthiques, et donc dans ces questions-là, je suis aujourd'hui président du comité éthique du CHU de Montpellier et je suis l'ancien président du comité éthique de la Société française d'anesthésie réanimation.
Parfait. Et déjà, on va attaquer très fort parce que quel est le rapport entre éthique, morale et déontologie? D'ailleurs, je pense que c'est bien de faire une définition de chacun parce que je pense que pour nos auditrices, nos auditeurs, pour qu'ils puissent déjà se situer un peu.
Oui, alors tout à fait. Alors déjà, peut-être préciser que en ce qui concerne les mots éthique et morale, en fait, ils viennent d'une même racine, ethos en grec et moralis en latin, et dont la signification renvoie au mot mœurs. Donc en fait, l'éthique et la morale se rapportent en fait aux mœurs. Alors si on veut essayer un peu de faire une définition de chacun, on peut dire que la morale, c'est l'ensemble des normes, des règles de conduite qui sont propres à une société donnée. Et peut-être sur un plan plus philosophique, c'est l'ensemble des règles qui définissent comment faire le bien et comment éviter de faire le mal. La morale, elle est donc impérative, directive, elle est à l'usage collectif et du ressort du politique, du religieux et du sociétal. Donc ça, c'est pour la morale. L'éthique, c'est plus une réflexion, une recherche sur les valeurs humaines, la vie, la mort, le respect de la personne, la liberté, la confidentialité. Et plus que de permettre de discerner entre le bien et le mal, elle amène à choisir entre plusieurs formes de bien, voire le moindre mal. Et elle repose sur la réflexion, les qualités humaines et l'ouverture. En général, c'est le fruit d'une réflexion collective, on ne fait pas de l'éthique tout seul, d'échanges et de débats. Et c'est une démarche active qui peut et doit évoluer dans le temps. L'éthique, c'est pas figé. Et enfin, elle est rarement directive. Elle est plutôt suggestive. Elle amène à formuler les questions de manière à permettre à chacun de trouver la réponse la mieux adaptée dans une situation donnée, au respect et au bien-être de l'autre. Et enfin, la déontologie, en fait, c'est l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession. Donc, en l'occurrence, par exemple, pour nous, la déontologie médicale. Et elle s'exprime le plus souvent à travers un code professionnel, donc le code de déontologie médicale, qui, en médecine, est l'exposé des règles de bonne conduite envers le malade, les familles, les confrères, les collaborateurs et la société. Alors, j'ai essayé un peu de vous faire un panorama de ces grands concepts que sont la morale, l'éthique et la déontologie.
Ici, nous, on parle de éthique médicale. Quelle est la différence entre éthique médicale et bioéthique ?
Alors, peut-être c'est bien de préciser ce qu'est la bioéthique. En fait, la bioéthique, c'est l'étude systématique de la conduite humaine dans le cadre des sciences, de la vie et de la santé. Il va être examiné à la lumière des valeurs et des principes moraux. En fait, cette bioéthique, elle s'est construite petit à petit, après notamment les révélations du procès de Nuremberg en 1947 et de pratiques de recherche médico-scientifiques incontrôlées, ne répondant pas à la déclaration des droits de l'homme dans les années 60. En fait, la bioéthique, elle a été créée pour essayer de cadrer la recherche, notamment en santé. Le développement des sciences et de la recherche médicale appliquée à l'homme a rapidement imposé d'associer à la fois la rigueur scientifique et les règles éthiques dès la fin des années 70. On peut schématiquement identifier 5 principes essentiels sur lesquels elle repose: la connaissance approfondie des faits, le respect de la dignité de l'être humain, le respect à la fois de l'identité, mais aussi de la différence, l'obligation de compétence et d'actualisation des connaissances scientifiques et techniques, et l'attention de l'autre. Alors peut-être que ce qu'on peut préciser aussi, c'est que la France, parce que c'est quand même une particularité, a été le premier pays à créer un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé en 1983 sous l'impulsion de François Mitterrand à l'époque. Et la mission de ce CCNE, donc comité consultatif national d'éthique, c'est de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Et il faut savoir donc que le CCNE est un organisme purement consultatif, mais qui va être régulièrement saisi pour réfléchir sur des sujets de société liés à l'évolution des connaissances dans le domaine des sciences, de la vie et de la santé. L'éthique médicale, elle, c'est elle qui va nous guider dans nos réflexions auprès des patients. Donc là, on n'est pas sur des concepts comme de la bioéthique, hein, on est vraiment dans le concret, etc. Et elle repose sur quatre grands principes qui ont été décrits maintenant il y a un certain temps par Beauchamp et Childress. Ces quatre principes d'éthique médicale, c'est l'autonomie, la bienfaisance, son contraire qui est la non-malveillance, et la justice distributive. La justice distributive, c'est l'égal accès aux soins pour tout le monde. Et peut-être pour terminer sur ces concepts, bien préciser que l'éthique, c'est pas le droit et donc c'est pas la déontologie. En fait, l'éthique médicale, elle va essayer de s'articuler avec le droit et la déontologie en essayant de participer à l'interprétation du droit en situation, par exemple, dans le cadre de jurisprudence. Elle va chercher à résoudre des éventuels conflits internes du droit positif, par exemple, quand on va être confronté à des dissensions, par exemple, entre le secret professionnel et le partage de l'information. Elle va aider à combler les vides juridiques par l'interprétation des textes. Et puis, elle peut dépasser le droit si elle apparaît comme justice formelle et ne traduit pas l'équité ou la justice naturelle. Donc voilà un peu, pour essayer de définir ces grands concepts, un peu ce que peut être l'éthique, la bioéthique, la morale, la déontologie.
Avec ces bases qui ont été posées, on va discuter un sujet un peu pointu qui amène à beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements, c'est concernant la fin de vie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu quel est le cadre actuel éthique illégal concernant la fin de vie en France ?
Oui, c'est important cette question. Parce que aujourd'hui, vous savez qu'on est dans un futur projet de loi de fin de vie. Et en fait, le constat important à faire, c'est de savoir si, avant de changer la loi, est-ce que effectivement la loi elle est bien connue et la loi elle est bien appliquée. Alors pour ça, d'ailleurs, on avait fait un sondage en 2022 avec le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Et l'Institut BVA pour savoir quel était le niveau de connaissance des Français en fait sur la loi actuelle. En fait, quand on interroge les Français, on s'aperçoit que trois quarts des Français à peu près savent qu'il existe une loi sur la fin de vie. Quand on leur demande est-ce qu'ils pensent connaître ce qu'il y a dans cette loi, ben on tombe à 50% des Français. Et puis quand on pose directement des questions, une série de questions concernant cette loi, ben on voit que il y a à peine 16% des Français qui sont capables de répondre à 6 questions sur les 8. Donc on voit bien clairement qu'aujourd'hui, cette loi, elle est pas bien connue. C'est pour ça que, puisqu'on est en plus dans une question d'éthique, où on a souvent tendance à opposer la loi et l'éthique, moi je vais vous rappeler quand même quels sont les grands principes de la loi actuelle. En fait, il y en a deux. Il y a la loi Leonetti de 2005. Qui avait comme particularité d'être une loi d'initiative parlementaire, donc engagée par les députés et non par le gouvernement, qui avait été la première loi votée à l'unanimité au cours de la Ve République. C'est pas peu dire sur un sujet comme la fin de vie, puis on peut dire aussi que l'Assemblée n'était pas vide, puisqu'il y avait quand même 548 députés qui ont voté pour et zéro contre. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une loi qui repose en fait sur les grands principes d'éthique que je viens de vous citer, que sont donc autonomie, bienfaisance, non-malveillance et justice distributive. Et elle repose aussi sur un triptyque qui est « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir et je ne prolongerai pas anormalement ta vie ». Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi de Léonétide 2005? Il y avait d'abord la consécration, et c'est la première fois en France, de l'interdiction de l'acharnement thérapeutique, autrement appelé obstination déraisonnable. C'est marqué dans la loi depuis 2005, on n'a pas le droit de faire de l'obstination déraisonnable ou de l'acharnement thérapeutique. Et je pense que ça, c'est quand même important de le rappeler, parce que souvent on entend dans le débat actuel, voilà, c'est dans la loi et c'est depuis maintenant pratiquement 20 ans. Les deuxièmes éléments clés de cette loi, ça a été de renforcer l'autonomie du patient, le renforcement du libre choix, de son information. Ça a été d'introduire la notion de double effet. Ça, c'était extrêmement important. La notion de double effet, c'est quoi? C'est que quand on met un médicament pour soulager un patient, la morphine, si on monte les doses de morphine, on peut, éventuellement, ça peut avoir comme effet d'accélérer le décès. Mais en fait, la loi nous dit, si vous mettez ce médicament pour soulager le patient, eh bien, ça ne pose pas de problème, vous ne pouvez pas être condamné. C'est la notion de double effet. Et nous, ça a été très important parce que, parfois, pour soulager les patients, on mettait des doses très importantes de morphine parce qu'ils avaient besoin de ces doses-là. Et on savait que, indirectement, peut-être on allait accélérer le décès et on n'était pas très à l'aise parce qu'on savait qu'on aurait pu être, à ce moment-là, à cette époque-là, accusé d'euthanasie. Et donc, cette loi, elle a bien tranché, elle a dit, si vous soulagez le patient, c'est ça qui est important. Et ben, si malgré tout, ça doit accélérer le décès, tant pis. C'est l'important, c'est de soulager le patient. Et là, on voit bien qu'on est dans le concept de bienveillance. Il y a eu l'introduction de la procédure collégiale, c'est-à-dire que le médecin ne décide plus tout seul. Il doit s'entourer d'un certain nombre d'avis avant de prendre sa décision, et notamment quand le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Il y a eu l'article 7 qui a été celui de l'introduction des directives anticipées. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, et ça a bientôt 20 ans. Et puis, il y a eu la consécration des soins palliatifs, mais il y avait déjà eu une loi là-dessus. Donc, vous voyez qu'en 2005, a déjà été quand même introduit des grands concepts législatifs, mais qui correspondaient à des grands principes éthiques. Et en 2016, il y a eu une deuxième loi, qui est la loi Claeys-Leonetti, donc les mêmes, un peu les mêmes acteurs, et qui est allée encore plus loin, puisque les directives anticipées deviennent contraignantes depuis 2016. C'est-à-dire que maintenant, les médecins, normalement, sont obligés de les suivre. Il y a eu le fait que la souffrance remplaçait le mot douleur dans tous les endroits de la loi, pour se dire, voilà, eh bien, demain, il n'y a pas que la douleur physique, il y a aussi de la souffrance, ça peut être de la souffrance psychologique. Puis, il y a l'introduction de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui est une particularité française qui n'existe pas dans les autres pays, mais qui est réservée à des cas très précis. Là, on n'aura pas le temps de vous les détailler, mais c'est une condition très précise de la loi. Et puis, élément très important aussi, qui a été très longtemps débattu, ça a été de savoir est-ce que la nutrition et l'hydratation artificielle sont des traitements. Et à ce titre, on peut donc les arrêter au titre de l'obstination déraisonnable, ou est-ce que ce sont des soins? Parce que si c'est des soins, on les arrête pas. Et la loi a tranché, elle a dit ce sont des traitements, et donc, dans cette situation, on peut arrêter l'alimentation, l'hydratation artificielle, bien sûr, encadrée par une sédation. Donc voilà un peu quand même les grands axes de la loi actuelle, parce que c'est des axes qui sont vraiment très porteurs, à mon avis, d'un point de vue éthique, et qui sont extrêmement mal connus, et de la population française, mais aussi des soignants, pour faire régulièrement des formations sur le sujet aux équipes soignantes.
Mais on parle souvent du projet de loi. Qu'est-ce que le projet de loi va changer par rapport les lois qui sont déjà appliquées actuellement? Est-ce que vous pouvez essayer de résumer un peu le projet actuel? Qu'est-ce que ça va déjà changer dans cette prise en charge concernant la fin de vie?
Alors, dans le projet de loi qui avait été déposé par le gouvernement, il y a deux volets. Un premier volet qui est le renforcement des soins palliatifs. Et là, c'est une évidence. Ça fait consensus pour tout le monde. Aujourd'hui, on estime qu'un patient sur deux qui devrait bénéficier des soins palliatifs meurt en France sans pouvoir y avoir accès. Donc, c'est quand même 200 000 patients par an qui devraient avoir accès aux soins palliatifs et qui n'y ont pas accès. Donc là, clairement, tout le monde est d'accord. Là, il n'y a pas de débat. Il faut renforcer les soins palliatifs. Donc ça, c'est le premier volet du projet de loi. Le deuxième volet, c'est la possibilité d'ouvrir un accès à l'aide à mourir. Donc ça, c'est là, c'est une grande nouveauté. C'est une rupture avec les lois précédentes. Et donc cette ouverture de l'accès à l'aide à mourir. Alors dans la loi, volontairement, le gouvernement n'a pas voulu nommer le suicide assisté, l'euthanasie. Peut-être que on peut juste redéfinir les différences. Hein. Le suicide assisté, c'est le médecin qui prescrit une substance et le patient qui l'absorbe lui-même. L'euthanasie, c'est le médecin qui va injecter un produit létal à un patient. Hein, voilà, donc c'est deux concepts différents. Il y en a un où c'est vraiment le patient qui fait tout lui-même. L'autre, c'est le médecin hein, qui, dans les pays qui ont légalisé aujourd'hui, c'est le médecin. Mais on verra que dans le projet de loi, ça va plus loin. Donc, l'idée du projet de loi, ça a été de proposer cette aide à mourir avec cinq critères. D'abord, être majeur. Deuxièmement, être de nationalité française. Troisièmement, être en capacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairée jusqu'au bout de la procédure. Être atteint d'une infection grave et incurable, engageant son pronostic vital à court ou moyen terme. Et puis, présenter une souffrance physique ou psychique réfractaire ou insupportable liée à cette affection. Donc, il fallait qu'il y ait ces cinq critères pour avoir la possibilité d'accès à cette aide à mourir. Donc cette demande devait être faite à un médecin. Le médecin, évidemment, devait informer le patient des différentes dispositions, les soins palliatifs, etc. Il doit recueillir l'avis d'un autre médecin spécialiste de la pathologie que présente le patient. Et il doit aussi prendre un avis d'un soignant paramédical. Mais il n'est pas obligé de suivre ses avis. Il doit prendre ses avis, mais il n'est pas obligé de les suivre. Et le médecin, dans un délai de 15 jours, doit donner une réponse au patient. Et le patient lui-même a normalement un délai incompressible de 48 heures pour donner sa réponse. Donc ça, c'était ce qu'il y avait dans le projet de loi déposé par le gouvernement et qui a été travaillé par la commission parlementaire, commission qui a fait de nombreuses auditions. Moi, j'ai été d'ailleurs aussi auditionné à cette commission. Et ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que de quelque chose qui était cadré d'un projet de loi qu'on pouvait estimé équilibré, on voit d'emblée qu'il y a déjà des ouvertures nettement plus importantes, puisque la commission a rajouté des amendements. La commission elle-même, qui était déjà composée de 70 députés, a elle-même amendé ce premier texte en supprimant la notion du pronostic vital engagé à court ou moyen terme, en disant juste que c'est des patients qui sont porteurs d'une affection grave, incurable, avancée ou terminale. La possibilité d'avoir accès à l'aide à mourir via des directives anticipées, ce qui n'était pas le cas dans le projet de loi. Et puis, le projet donc définissait une aide à mourir sous la forme du suicide assisté, alors que là, on aura le choix non seulement entre suicide assisté et l'euthanasie, mais en plus la possibilité éventuellement que l'euthanasie soit faite par un proche si le patient le décide. Donc là, on voit qu'il y a, effectivement une ouverture plus que large et qui là commence à entraîner dans un débat qui était déjà compliqué des choses encore plus compliquées.
Pour profiter un peu de votre expérience et de votre connaissance de toutes les parties impliquées dans ce projet de loi, est-ce que vous pouvez nous décrire, je sais que d'une façon simple c'est compliqué, mais est-ce que vous pouvez nous décrire quels sont les enjeux dans ce projet de loi?
Alors peut-être déjà en préambule, je vais vous dire juste que plus je réfléchis à ce sujet, ça fait longtemps puisque j'ai participé à cette réflexion au niveau du ministère hein, depuis fin 2022 jusqu'à fin 2023 dans le groupe de travail des professionnels de santé. Et plus je réfléchis à ce sujet, plus je le trouve complexe, moins j'ai de certitudes et plus j'ai de questions. Donc déjà, c'est quand même... Et pourtant, je peux vous dire que je connais très très bien le sujet. Alors, les enjeux. Comment vous dire? Déjà, nous, déjà, dans notre pratique d'anesthésiste réanimateur, enfin, moi, je travaille dans une réanimation qui s'occupe de patients cérébraux lésés graves. Le constat que l'on a, c'est que, on est beaucoup plus confronté à des demandes, enfin, même quasiment, quand on est en désaccord avec les proches, sur, des demandes d'obstination déraisonnable, plutôt que des demandes d'arrêt prématuré des traitements. C'est-à-dire que nous, dans la vraie vie, on n'a pas des familles qui viennent nous dire « Bon, maintenant, vous ne croyez pas qu'il faudrait arrêter ?» On a plutôt des familles, quand on commence à leur dire qu'on pense qu'on va trop loin et que là, on est dans l'obstination raisonnable, des familles qui ne veulent pas entendre ça. Donc, vous voyez, c'est toujours intéressant de comparer quand on discute avec des gens bien portants qui se projettent. C'est pas la même chose que quand on parle avec des gens qui sont confrontés réellement, réellement aux choses. L'autre chose, c'est clairement, on est dans un débat, dans les enjeux, qui est un débat entre, puisqu'on parle d'éthique, entre l'éthique de l'autonomie, c'est-à-dire c'est je choisis, c'est mon droit, je fais comme je veux pouvoir choisir quand est-ce que je vais mourir. Et puis l'éthique de la vulnérabilité, qui est comment protéger les plus faibles. Et en fait, dans cette loi, ce qui vient percuter la loi actuelle, qui d'ailleurs normalement ne devrait pas faire disparaître la loi actuelle, puisque la loi actuelle elle s'adresse aux patients qui vont mourir, alors que le projet de loi, il s'adresse quand même aussi aux patients qui veulent mourir. Donc vous voyez qu'on n'est pas exactement dans le même champ. Et je pense que c'est important de rappeler que la France, elle a choisi les voies des lois léonétiques, les léonétiques, qu'on est pour arrêter de penser et de dire que la France est en retard par rapport à ses voisins européens, parce que en fait, on a pris des chemins différents. Nous, on a pris le chemin de l'obstination, de la non-obstination déraisonnable, de la sédation profonde et continue. D'autres pays ont fait des choix différents, mais je peux vous dire que, par exemple, et il y a des éditoriaux assez récents, par exemple, qui disent des réanimateurs belges, et notamment du président de la société de réanimation belge, qui dit « À quand une loi Claeys-Leonetti en Belgique ?» Donc, vous voyez, alors que la Belgique a l'euthanasie depuis 2002. Et puis, les Italiens, par exemple, qui viennent depuis 2022 de légiférer sur le suicide assisté, donc on dit, ah, bah, eux, ils sont, ça y est, c'est fait, etc. Bah, en fait, non, les conditions du suicide assisté qui est possible en Italie correspondent déjà à ce qu'on peut faire, nous, avec la loi Claeys-Leonetti. Donc, vous voyez, on entend beaucoup de choses, mais en fait, quand on parle précisément des sujets, on voit que les gens sont pas toujours bien au courant. En tout cas, dans tous les cas, et je pense que là tout le monde est d'accord, l'aide à mourir, ça ne doit pas être une réponse à un manque de soins palliatifs, ni à un manque de soins tout court. Ça, c'est clair, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a quand même une problématique de soins, peut-être qu'on en parlera sur l'article 140 du CCNE, mais il y a un problème dans l'éthique du soin où aujourd'hui, quand même globalement, on est plus dans la quantité de soins, hein, ce qu'on appelle le cure, plutôt que dans le prendre soin, qu'on dénomme le care. Hein. Et donc ça, c'est un point important. L'autre point aussi, dans les enjeux hein, et des points de vigilance, hein, c'est de dire que il faut faire attention à ne pas risquer de stigmatiser des patients en situation de vulnérabilité, que ça soit du handicap, de la dépendance, de maladies chroniques, dont on pourrait leur faire croire que leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et donc, quelque part indirectement, que la société leur indique une porte de sortie. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On sait aussi qu'il doit y avoir une distinction entre le désir de mort et le désir de ne plus souffrir. Et que souvent, ça, les gens des soins palliatifs le disent bien, quand il y a des gens qui arrivent avec un désir de mort, en fait, pour eux, c'est un désir de ne plus souffrir. Et puis, il y a la question de la réversibilité de la décision, et ce qui peut être inquiétant dans les délais que je vous ai donnés, qui sont quand même relativement courts pour donner des réponses. Et on sait bien que dans ces demandes, elles peuvent être fluctuantes dans le temps, et que donc, effectivement, les gens peuvent revenir sur la décision. On a un autre point qui est d'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait des patients suicidants ? Aujourd'hui, il y a 200 000 suicides par an en France, il y a 10 000 décès. Nous, on en prend en charge les plus graves dans nos soins critiques, on en prend en charge à peu près 26 000 en France par an. Donc, qu'est-ce qu'on va faire demain des patients suicidants quand il y aura une loi sur le suicide assisté? Et enfin, pour dire juste qu'on n'est pas, personnellement, on n'est pas opposé à une évolution de la loi, mais qui doit être réservée à des cas pour lequel la loi actuelle ne répond pas, et à quelques cas. Et la crainte, et c'est ce que nous ont expliqué aussi certains Belges quand je suis allé en Belgique avec la ministre pour rencontrer les acteurs, c'est de dire, comment éviter les élargissements de critères et que finalement l'aide à mourir ne devienne pas une situation exceptionnelle comme ça devrait être le cas au début, mais une forme banale de mourir dans un pays. Et c'est ça qui peut, c'est comment on va pouvoir limiter ces dérives alors que les autres pays nous disent, ben, on n'a pas réussi à le faire.
C'est vrai que le sujet est très intéressant, mais le temps passe très vite. Alors, une dernière question. Le dernier avis du Comité consultatif national d'éthique parle de la refondation du système de soins sous un fondement éthique. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, cet avis, il est centré principalement. Alors, il a fait suite à l'avis 137, hein, qui était l'éthique et santé publique en pleine crise Covid. Hein, ça a été les tensions entre l'éthique individuelle du soin et l'éthique liée à une juste allocation des ressources. Hein. Et donc, il est centré principalement sur la situation tendue de l'hôpital public, qui est le symptôme le plus saillant de la crise du système de soins aujourd'hui. Et donc cet avis, il va essayer d'analyser la manière dont la pandémie de Covid-19 a contribué à révéler en fait une crise morale de l'hôpital public et la souffrance des professionnels de santé. Et il va s'intéresser également aux racines sociétales, historiques, économiques et politiques de cette crise, et il va amener des pistes pour essayer de répondre à ça. Donc je vous l'ai dit très rapidement, c'est essayer de valoriser le temps de la relation de soins, puisque on a l'impression vraiment que les soignants croisent de moins en moins les malades, en fait, hein. Ils sont de plus en plus souvent sur leurs ordinateurs et de moins en moins dans le temps du soin. Donc de favoriser justement ce care plutôt que le cure, et de placer la relation humaine, replacer la relation humaine au cœur du soin, en donnant un accès égal pour tous au système de santé, et respecter les personnes soignées et ceux qui les soignent. Et pour ça, il faut favoriser la confiance, et l'éthique, elle est mise en avant pour favoriser la confiance dans le système de soins, c'est remettre l'éthique au cœur du système de soins.
Monsieur le professeur, un grand merci pour tous ces renseignements qui sont précieux. Ces plans d'informations, effectivement, sont très riches. On voit que le sujet est complexe. Malheureusement, bientôt, on va être obligé de finaliser l'émission. Est-ce que vous avez un peu de temps? Est-ce que vous avez une dernière considération, un mot pour finaliser notre entretien d'aujourd'hui?
Non, mais ce que j'espère en tout cas, c'est que les politiques et les députés qui auront et puis les sénateurs, hein, puisqu'il y aura quand même enfin des allers-retours, hein, probablement, puisque on sait que globalement que le Sénat n'est pas sur la même position que l'Assemblée nationale, qu'on espère qu'en tout cas que ces débats seront apaisés dans la mesure du possible, et puis qu'on essaiera d'avoir un texte, en tout cas, qui peut paraître équilibré, parce que le risque quand même, c'est que si ce texte est très déséquilibré, ça heurte énormément les soignants, qui sont déjà heurtés par le texte initial, certains sont déjà beaucoup heurtés par le texte initial, alors avec ce texte déséquilibré, et je pense, ben justement, par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'éthique et les tensions qu'il y a aujourd'hui au niveau du soin, ben, ce serait important de rétablir une certaine sérénité au niveau de ces échanges et de ces débats pour aboutir à un texte équilibré.
Merci beaucoup. Sachez quand même que notre émission est toujours ouverte si vous souhaitez revenir pour parler du sujet, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à décrire, à parler. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup de votre temps et toutes les explications.
Avec plaisir.
Je te passe l'antenne, Laurent.
Merci, professeur. Merci, docteur Edmundo. Cette émission vous a plu. Vous pouvez la réécouter, la partager, puisqu'elle est disponible en podcast sur notre site www.farfm.com, rubrique La santé, c'est l'affaire de tous.